I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Éducation, santé, environnement. Ça fait 10 ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
Pour l'équipe des Échos, comme pour vous, le mois d'août, ce sont les vacances. Vous ne nous en voudrez donc pas de modifier en cette occasion notre présentation habituelle et de vous emmener flâner dans ce haut lieu du tourisme international qui s'appelle la Tour Eiffel.
Pour clore les séries d'été de la Story, on a fait un crochet par la Tour Eiffel, le monument parisien par excellence. Il fête 130 ans cette année. Et la Tour Eiffel, c'est à tous les étages une véritable mère nourricière. C'est une apporteuse d'affaires pour tout un tas d'activités et de commerces. La plupart licites, mais certains moins. Montez avec nous, on commence par le sommet et par la petite histoire des antennes de radio et télédiffusion. Je suis Michel Varnet, bienvenue dans La Story, le podcast d'actualité des Échos, en version été. Le haut de la Tour Eiffel est hérissé d'antennes de radio et de télévision. À l'origine, c'est juste l'une d'elles qui a sauvé l'édifice du démontage. Passé l'exposition universelle de 1889, son constructeur Gustave Eiffel n'a auprès de la ville de Paris qu'une concession de 20 ans. C'est-à-dire qu'à l'issue, les 2 500 000 rivets qui tiennent les 18 000 pièces de la tour devront être démontés. Plus de 10 000 tonnes de fer, de fonte et d'acier au rebut. À moins qu'Eiffel ne lui trouve une mission. C'est ce qu'il va s'employer à faire. Bertrand Lemoine, historien de l'architecture, a écrit « La tour de Monsieur Eiffel », publié aux éditions Découvertes de Gallimard. Il revient sur cet épisode.
À l'expiration de cette concession, donc en 1909, le terrain et donc le bâtiment qui se trouvait dessus, la tour, aurait dû revenir à la ville de Paris. La ville de Paris l'aurait peut-être conservé, l'aurait peut-être démoli. Il y a peut-être eu une discussion, peut-être un vote, bon, on ne sait pas. Mais en tous les cas, Eiffel ne voulait pas risquer cela et donc a cherché dès le départ à prouver que sa tour était utile. Pas seulement une attraction de foire ou d'exposition universelle, pour laquelle elle avait été conçue d'ailleurs, mais aussi qu'elle pouvait servir à autre chose. Il a installé sur la tour très tôt des stations météo, c'est un des pionniers de la météo en France. Ensuite, il a installé sur la tour un pendule de Foucault, c'est un grand pendule qui se balançait du deuxième étage. Le pendule de Foucault permet de mettre en évidence la rotation de la Terre, par exemple. Donc plus il est haut, plus c'est précis. Et il a aussi installé un câble entre le deuxième étage et le rez-de-chaussée et le sol, le long duquel il pouvait faire glisser des formes diverses pour mesurer la résistance qu'offrait l'air à ces formes, avec un dispositif de mesure assez astucieux intégré. Ça permettait de tester notamment des ailes d'avion, des avions, des choses comme ça. Et il a été très tôt contacté par l'autorité militaire qui souhaitait développer bien sûr la transmission radio à longue distance. C'est un peu le début de la radio. Et il a mis à disposition de l'autorité militaire la tour, il a même financé une partie d'installation pour que les militaires puissent progressivement tester des émissions de radio à longue distance. Plus on est haut, à 300 mètres d'altitude, plus on peut émettre sur une large surface. Et plus on a une antenne longue à l'époque, dans les systèmes de transmission, plus on pouvait là aussi émettre à longue distance. Et donc, il a fait différents essais. On a commencé par communiquer par radio avec le Panthéon. Le Panthéon est à 5-6 kilomètres. On peut se faire des signes avec des drapeaux pour dire qu'on a bien reçu l'émission, etc. Et très vite, on a pu communiquer avec les forts de l'Est de la France. Il faut se souvenir que 30 ans plus tôt, la France avait une guerre contre la Prusse. Les Prussiens avaient le siège de Paris, donc c'est une guerre difficile. Et donc, cette possibilité de communiquer avec les forts de l'Est a donné tout de suite une importance militaire stratégique à la Tour Eiffel. Du coup, il était évidemment plus question de la démolir. Et Eiffel a obtenu une prolongation de 70 ans de sa concession, donc jusqu'en 1979. Ses expériences sur la radio, cette possibilité d'avoir les antennes au sommet de la tour, ont été absolument décisives.
La voilà sauvée, pérennisée par la radiotransmission à peine naissante. Dès 1914, elle sera un atout stratégique dans la bataille de la Marne. Un message allemand intercepté par son poste radiotélégraphique permet à la France de déclencher l'opération des taxis de la Marne et de mener une contre-attaque victorieuse. La paix retrouvée, la station de la Tour Eiffel émet les premiers programmes d'information et de musique en 1921. Et à partir de 1935, c'est l'aventure télévisuelle. J'ai demandé à Bertrand Lemoine comment tout cela avait commencé.
L'idée d'émettre par des ondes des images, et des images animées qui plus est, donc elle naît dans les années 30, il y a des Allemands qui s'y intéressent, des Français aussi, il y a des premières émissions. En 1937, à l'occasion de l'Expo internationale, il y a d'ailleurs des quelques postes installés, il y a des émissions diffusées, alors c'est en noir et blanc, c'est très neigeux comme image. Rien à voir avec la haute définition d'aujourd'hui. Mais quand même, le procédé devient peu à peu mature et... Les Allemands, en 1942-43, vont décider d'utiliser cette possibilité d'émettre des images pour produire des émissions de télévision. À proximité de la tour, rue Cognac-Jay, ils exproprient en fait un bâtiment, un rez-de-chaussée de bâtiment, ils aménagent un grand studio, quand je dis studio, c'est une véritable salle de spectacle, pour retransmettre en direct, ou en différé, mais le plus souvent en direct, à la fois des actualités, mais aussi des spectacles. Tous les artistes français d'époque passent, font des émissions, chantent en direct. Il y a un orchestre à demeure. Et ces émissions sont émises à partir du sommet de la tour. C'est vraiment l'ancêtre de la télévision régulière en France. Et à partir de Cognac-Jay, de ce studio, on va continuer, on va commencer à émettre des émissions régulières en France dans les années 50. Certains se souviendront peut-être du « À vous Cognac-Jay », hein, où on rendait l'antenne à Cognac-Jay quand on était sur le terrain, en reportage.
Ici Colombe, à vous Cognac-Jay.
Et donc, ces studios créés par les Allemands à des fins, non pas de propagande, mais à des fins plutôt récréatives pour au bénéfice de l'armée d'occupation ou des convalescents de l'armée d'occupation, a été le point de départ de la télévision française. Et la Tour Eiffel a... pas tout à fait sans discontinuer, parce qu'il n'y a pas eu d'émission entre 45 et le début des années 50, mais la Tour Eiffel a joué ce rôle d'émetteur de télévision déjà en 1943.
Voilà l'aventure télévisuelle portée par l'un des plus célèbres monuments de Paris. C'est un peu la rencontre de deux révolutions, l'une industrielle, l'autre médiatique. La Tour va faire entrer l'image dans les foyers de toute l'Île-de-France. Après, les antennes vont se multiplier au sommet, suivant les évolutions technologiques. La dernière en date, c'était la fin de l'analogique, en 2011.
C'est durant la nuit, après le départ des derniers visiteurs, que les principaux travaux nécessaires ont eu lieu. Depuis 2 ans, la Dame de Fer est en train de vivre une mutation technologique. À l'abri des regards, elle se prépare pour le passage au tout numérique.
On compte plus d'une centaine d'antennes aujourd'hui au sommet de l'édifice, qui couvre 12 millions de foyers et un opérateur, TDF, Télédiffusion de France. Mais à l'ère de la fibre et d'Internet, l'importance du site est-elle toujours la même? J'ai posé la question à Arnaud Lucossi.
La Tour Eiffel est l'un des principaux sites de diffusion pour TDF, de diffusion audiovisuelle, c'est-à-dire radio plus TNT. C'est même d'ailleurs notre principal site en termes de couverture en France.
Arnaud Lucossi est secrétaire général de TDF.
C'est notre deuxième plus haut site également, puisque les antennes culminent à 324 mètres d'altitude, sachant que notre plus haut site est à 340, qui est le site du Mont-Maillet, donc notre deuxième plus grand site. Et en termes de couverture, nous desservons donc toute la région Île-de-France avec 12 millions d'habitants qui sont couverts grâce à la Tour Eiffel, à la fois pour la télévision, donc la TNT, avec une quarantaine de chaînes, et pour la radio, avec 32 stations de radio, ce qui est très important, puisque vous savez que la télévision est un service national, donc on a la même télévision partout, mais la radio, on a plus ou moins de radio selon les régions dans lesquelles nous sommes. Donc pour nous, c'est un site extrêmement important, extrêmement sensible, que nous supervisons de manière continue, avec une très grande équipe. Et évidemment, vu la couverture de 12 millions, c'est un enjeu crucial pour nos clients, donc les chaînes de télévision et les stations de radio qui vendent de la publicité et qui ne peuvent accepter aucune interruption de service naturellement.
Est-ce que Internet a fait évoluer tout ça en termes de dispositifs pour vous? Est-ce que ça a été éventuellement des parts de marché perdues? Est-ce que ça change un petit peu le paysage de la télédiffusion?
Alors, Internet change le paysage global de la télédiffusion, pas particulièrement sur la Tour Eiffel, mais la réception de la télévision a effectivement évolué, puisqu'aujourd'hui, la télévision est reçue par plusieurs plateformes, dont la plateforme Internet, qui se développe avec la fibre. Mais je tiens à dire que la TNT reste une plateforme extrêmement importante. Il y a plusieurs méthodes d'évaluer son importance. Nous avons fait, nous, des études qui montrent que 68% des foyers utilisent la TNT pour recevoir la télévision. Et parfois même, les box Internet sont connectés à la TNT et les opérateurs télécoms le demandent dans les notices d'installation.
La Tour Eiffel a la capacité unique de couvrir pour les clients de TDF un cinquième de la population française. C'est exceptionnel, mais ça a un coût. En renouvelant cette année la concession de TDF pour le sommet de l'édifice, la mairie de Paris a plus que doublé sa redevance. Ce qui a semé la colère dans les radios. En bout de chaîne, elles dénoncent une augmentation de leur coût tarifaire de la part de TDF de 25%. Arnaud Luc aussi se défend.
Alors, TDF est un opérateur de télécom, de diffusion, donc qui doit gagner de l'argent pour investir. Donc, tous les sites ont vocation à être rentables. La Tour Eiffel ne fait pas exception. Donc, ça, nous y sommes attentifs. Et je crois qu'aucune activité économique ne peut fonctionner durablement en étant déficitaire. Ça, ce n'est pas possible. Donc, effectivement, c'est un site sur lequel TDF gagne sa vie, probablement moins qu'ailleurs d'ailleurs, puisqu'on a cette redevance très élevé auprès de la mairie, donc nous n'avons pas totalement répercuté à nos clients, je souhaite aussi le dire, donc nous avons pris un peu sur notre profitabilité générale pour amortir l'effet hausse de redevance vis-à-vis des clients. Après, on a aussi beaucoup d'équipements, donc TDF est une entreprise qui investit beaucoup, et à la Tour Eiffel, il y a beaucoup, beaucoup de matériel, parce qu'il y a beaucoup d'émetteurs, tout est doublé, des installations aussi électriques, parce que tout cela consomme beaucoup d'énergie, donc une installation électrique très puissante avec des groupes électrogènes, qu'on entretient aussi, là aussi une maintenance assez régulière, et donc il y a effectivement des coûts de personnel. Voilà. Après, c'est un site qui représente environ 2% du chiffre d'affaires de TDF, ce qui fait que ça reste assez emblématique, mais ça reste quand même limité comme impact. TDF est ce qu'on appelle une ETI, c'est une entreprise de taille intermédiaire, donc qui a fait 670 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, qui a connu de très nombreuses années de décroissance et qui, depuis 2 ans, a un chiffre d'affaires stable et un EBITDA, donc une sorte de résultat opérationnel, donc qui est d'environ 50% du chiffre d'affaires et des investissements qui, eux, sont en très forte progression, puisqu'en 2018, nous avons investi 38% de notre chiffre d'affaires. Alors, pourquoi nous avons autant investi? Parce que toutes nos activités, TDF a 3 activités, donc l'activité diffusion audiovisuelle dont nous parlons pour la Tour Eiffel, mais aussi nous hébergeons les opérateurs mobiles sur nos pylônes, sur les autres pylônes, pas la Tour Eiffel. Et puis, nous déployons depuis 2017 des réseaux de fibre optique dans les zones peu denses. Toutes les activités, mais en particulier la fibre optique, nécessitent des investissements très lourds, ce qui nous conduit à investir 38% de nos chiffres d'affaires. C'est un ratio tout à fait élevé. Très peu d'entreprises sont à ce niveau-là. Par exemple, un opérateur télécom traditionnel est environ de 20%. Et alors, il fournit déjà des gros efforts. Nous avons aussi un effort d'investissement pour construire des nouveaux pylônes, puisque la couverture mobile est amené à beaucoup se développer. Je crois même que les échos d'aujourd'hui titrent sur la couverture 5G future. Et tout cela est consommateur d'investissement, donc ce qui fait que notre rentabilité est utilisée pour financer nos investissements, qui restent très importants, au service de tous nos clients, donc audiovisuels et opérateurs télécoms.
Si la Tour Eiffel reste un site de télétransmission peu coûteux, la question qui se pose, c'est comment aurait fait la radio et la télévision en Île-de-France sans les 324 mètres de la Dame de Fer?
Un seul site ne permet pas de diffuser sur la région Île-de-France, en dehors de la Tour Eiffel. Mais on pouvait imaginer qu'en combinant plusieurs sites, ça soit possible. À dire vrai, nos études n'ont pas été particulièrement concluantes sur ce point. Donc on aurait fait difficilement, pour répondre à votre question.
Merci Bertrand Lemoine et Arnaud Lucossi. La story d'été par les échos, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, nous descendrons d'un étage dans la Tour Eiffel. L'émission a été réalisée par Adèle Itel. Vous pouvez profiter des vacances pour retrouver les précédents épisodes de la story. Et pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.
Mesdames, messieurs, la visite est terminée. N'oubliez pas le guide, s'il vous plaît.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
We're all looking to make more sustainable choices, but making your own shoes out of natural materials could pose a few challenges. At the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the science-y stuff like research and testing to create shoes from natural materials, like leather made from plants, eucalyptus tree fiber, and sugarcane. It's not rocket science, it's shoe science. Allbirds is making shoes better than natural. They're super natural. Find your perfect pair at allbirds.com today. That's A-L-L-B-I-R-D-S.com.